Voici les deux textes liturgiques pour ce 15e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tiré de l'apôtre saint Paul aux Galates. Mes frères, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. N'allons pas convoiter la vaine gloire pour nous provoquer les uns les autres et nous jalouser les uns les autres. Oui, frères, mais si pourtant quelqu'un d'encore charnel et surpris à manquer à cette règle, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Songez à vous-même et craignez d'être tenté vous aussi. Portez les fardeaux les uns les autres, c'est ainsi que vous accomplirez la loi du Christ. Si quelqu'un se croit quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. Que chacun éprouve plutôt ses propres œuvres, et le sujet de sa gloire sera non un autre mais en lui-même, non dans un autre mais en lui-même. Car chacun devant Dieu portera son fardeau. Que celui qu'on instruit dans la parole de Dieu communique en toute espèce de bien avec celui avec qui le catéchise. Gardez de vous y tromper, on ne se joue pas de Dieu. L'homme en effet moissonnera ce qu'il aura semé. Celui qui sème dans sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Celui qui sème dans l'esprit au contraire moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Faisons le bien sans nous décourager, nous recueillerons la moisson en son temps. Si nous ne nous décourageons pas, oui, tandis que nous en avons le temps, faisons le bien à tous, et spécialement à ceux qui sont de la famille de Dieu par la foi. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint-Luc. En ce temps-là, Jésus allait à une ville nommée Naïm, et avec lui allaient ses disciples, ainsi qu'une foule nombreuse. Alors voici, comme il arrivait à la porte de la ville, voici qu'on apportait un mort. On emportait un mort, fils unique de sa mère. Cette mère était veuve. Et les habitants de la ville étaient avec elle en grande foule. En la voyant, le Seigneur fut ému de compassion sur elle et lui dit « Ne pleurez pas ». Puis il s'avança et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit « Jeune homme, je vous le dis, levez-vous ». Et le mort se dressa sur son séant et se mit à parler. Et il le donna à sa mère. Et la crainte s'empara de tous les assistants et glorifiait Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé au milieu de nous et Dieu a glorifié son peuple. Veuillez vous asseoir. Nous aurons donc le repas de paroisse après la messe. Merci pour tous ceux qui ont amené quelque chose. Le prochain repas aura lieu, si Dieu veut, le dimanche 16 octobre. Alors attention, cette semaine, nous avons les quatre temps, mercredi, vendredi et samedi. Les quatre temps sont des journées de pénitence. Donc pour tous ceux qui ont entre 21 et 60 ans, pour les quatre temps, il y a jeûne obligatoire, un repas par jour. Et pour tous ceux qui ont l'âge de raison, en plus, l'abstinence de viande. Donc mercredi, vendredi et samedi. Nous avons repris, donc j'ai commencé un nouveau cycle de conférences que j'ai commencé mercredi il y a 10 jours sur les actes du magistère. Je me permets d'insister sur l'importance de ce cours qui va vous aider, j'espère, à comprendre les grandes encycliques pontificales des 19e et du 20e siècle. Je suis obligé de commencer par une longue introduction pour être sûr que vous avez dans votre intelligence les choses dont vous avez besoin pour comprendre les encycliques. Le problème des encycliques, c'est qu'elles ne sont pas écrites pour les laïcs, par les papes. Elles sont écrites pour les évêques. Donc pour des gens qui sont supposés avoir une bonne formation philosophique. Et ensuite, les évêques transmettaient ça aux prêtres, puis aux fidèles. Alors, ce cours a lieu donc ici, à la chapelle, tous les mercredis, de 20h à 21h30, et sur Internet, à partir de 10h30 soir à peu près. Le mercredi soir, il est sur Internet en vidéo et en audio, les deux. Donc vous avez le cours en audio et en vidéo, ce qui vous permet de travailler à la maison. Je félicite tous ceux qui sont connectés sur ce cours, parce qu'il y a plus de 800 personnes qui se sont connectées, grâce à Dieu. Pour cette semaine, attention, les messes cette semaine auront lieu à 8h le matin, toute cette semaine. Également, vous pouvez nous aider d'une autre façon. On a, grâce à bonsoir de notre jardinier en chef, Nicolas. Nous avons des tonnes de tomates. Alors, si vous en voulez, vous allez vous servir. Elles sont dans le bas du frigo. Allez en chercher parce qu'on en a trop pour nous. Sinon, on va s'abîmer. Donc, n'hésitez pas à venir chercher des tomates après la messe, si vous le voulez. J'ai oublié. Donc encore une fois, prier pour que nous puissions organiser cette nouvelle chapelle. Donc je ne peux pas encore trop vous en parler. En principe, ça devrait être opérationnel, j'espère, avant la fin de l'année. Donc ce serait une chapelle où il y aurait une cinquantaine de places qui serait beaucoup plus facile pour tout le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, comme vous le savez sans doute déjà, la mort, dans les textes de l'Évangile, est toujours interprétée par les pères de l'Église comme étant un symbole du péché. La mort corporelle étant au corps ce que le péché est à l'âme. Et donc les résurrections que notre Seigneur Jésus-Christ a opérées pendant sa vie terrestre sont un symbole de la résurrection de l'âme, c'est-à-dire le passage de l'âme du péché à l'état de grâce. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait 4 résurrections, au moins celles qui sont reportées dans l'Évangile. Vraisemblablement, il en a sans doute fait d'autres, mais tout n'est pas dans l'Évangile. Donc la première résurrection, c'est la fille du chef de la synagogue qui s'appelait Jaïr, une petite fille qui a été ressuscitée par notre Seigneur. La deuxième résurrection, c'est celle d'aujourd'hui, le fils de la veuve de Naïm. La troisième résurrection, c'est la résurrection de Lazare, le frère de Sainte Marie-Madeleine, de Sainte Marthe. Et la quatrième résurrection, c'est sa propre résurrection, bien sûr. On peut associer relativement facilement ces résurrections à toute une série de choses. Donc on peut associer d'abord chacune de ces morts, plus exactement, avant de parler des résurrections, chacune des morts peut être associée à une de ces morts. Expliquons. Il y a plusieurs morts. Il y a une mort physique et une mort spirituelle. On vit avec un corps et une âme. Donc il y a une vie pour le corps et une vie pour l'âme. Et une mort pour le corps et une mort pour l'âme. Il y a deux sortes de morts. Il y a une mort physique et une mort spirituelle. Et la mort spirituelle, elle se dédouble. Donc il y a une mort physique, du corps, séparation du corps et de l'âme. Une mort spirituelle, qui est le péché qui rentre dans l'âme, soit de façon temporaire, soit de façon éternelle. La mort spirituelle temporaire, c'est le péché qui rentre dans l'âme, mais qui, grâce à Dieu, peut être détruit par la confession ou un acte de contrition parfaite. La mort spirituelle éternelle, c'est évidemment la plus grave, à savoir la chute en enfer. Ici-bas, quand on commet une faute grave, on a toujours, grâce à la miséricorde du bon Dieu sur nous, on a toujours la possibilité d'effacer cette mort et de ressusciter d'entre les morts par une bonne confession. Mais n'oubliez pas qu'une fois qu'on a quitté le temps, on passe dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a plus de temps. L'éternité, c'est l'absence de temps. Or, pour changer, il faut du temps. Pour passer d'un état à un autre, il faut du temps. C'est le passage de la puissance à l'acte, on dit en philosophie. Donc une fois qu'on est dans l'éternité, il n'y a plus de temps, donc il n'y a plus de possibilité de changement. Ça veut dire que quelqu'un qui est au ciel, dans l'éternité, il y est pour toujours. Quelqu'un qui est malheureusement en enfer, il y est pour toujours. La seule exception, c'est le purgatoire. Le purgatoire étant un lieu temporaire. Ça, c'est des choses à bien comprendre. Donc la mort qu'il faut craindre, c'est d'abord la mort spirituelle. On peut aussi donc associer chacune de ces morts, c'est ce que font les pères de l'Église, on peut associer chacune de ces morts à une des morts répertoriées dans l'Évangile. La mort physique peut être associée ainsi à la mort de la fille de Jaïr, petite fille la petite fille du chef de la synagogue. La mort spirituelle peut être associée, mort spirituelle temporelle, pour un temps, peut-être associé à la mort du fils de la veuve de Naïm, et la mort éternelle peut-être associée à la mort de Lazare. C'est pour ça qu'il y a des détails qui changent pour chacune de ces morts. Par exemple, la première mort, c'est la mort de la fille du chef de la synagogue. Elle est encore dans sa chambre. Elle est sur son lit, elle vient de mourir. Notre Seigneur Jésus-Christ arrive et la ressuscite. La deuxième mort répertoriée dans l'Évangile, il y a un détail qui change. C'est la mort qui est répertoriée aujourd'hui, à l'Évangile d'aujourd'hui. Le fils de la veuve de Naïm n'est pas sur son lit, il est déjà dans le cercueil et il est porté au cimetière. Notre Seigneur Jésus-Christ a aussi pouvoir sur lui. Donc ça représente une mort plus sérieuse. La troisième résurrection, c'est la résurrection de Lazare. Non seulement il est mort, non seulement il est porté dans le cercueil, mais en plus il est déjà au cimetière, la pierre a été refermée et il sent déjà, parce qu'il est enfermé dans le cimetière, depuis dans la tombe depuis 4 jours. Donc ça représente une mort encore plus grave. Et c'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, qui peut tout, peut ressusciter chacune de ces morts. Donc quel que soit l'état dans lequel nous sommes, ici-bas, tant que nous sommes dans le temps, notre Seigneur Jésus-Christ peut ressusciter les morts spirituelles. Encore une fois qu'on a passé le temps, qu'on est passé dans l'éternité, on ne peut plus rien changer, parce que pour changer, rappelez-vous, il faut 3 choses. Il faut du temps, mais il faut aussi l'usage de notre liberté et la grâce de Dieu. Ici-bas, on a les 3 choses. On a du temps, on peut avoir la grâce du bon Dieu, on a l'usage de notre liberté. Mais une fois qu'on est passé du temps à l'éternité, on n'a plus de grâce, strictement parlant. On est dans l'éternité, donc on n'a plus de temps, on n'a plus l'usage de notre liberté. C'est pour ça qu'un élu au ciel ne peut pas changer d'idée et dire « Ah bon, je retourne sur ce monde ». C'est impossible, heureusement d'ailleurs. De même, une personne qui était là sans enfer, y est pour toute l'éternité. On peut aussi associer ces différentes morts à la façon de travailler du démon. Par exemple, la première mort, la mort de la fille du chef de la synagogue, représente la concupiscence des yeux, ce désir que nous avons de tout avoir, qui met la mort dans notre âme. La deuxième mort, la mort du fils de la veuve de Naïm, celle qu'on explique aujourd'hui, qui est dans l'évangile d'aujourd'hui, représente la concupiscence de la chair, une autre façon qu'utilise le démon pour nous tuer, qui est encore plus grave. Et enfin, la troisième mort, la mort de Lazare, le frère de Sainte Marie-Madeleine et Sainte Marthe, représente la concupiscence de l'orgueil, c'est-à-dire la plus grave des 3 concupiscences. Alors les conséquences sont énormes de ce que je suis en train de vous dire. De même qu'on dit que le corps est sous la puissance de l'âme, que l'âme est la forme du corps, donc l'âme est bien plus importante que le corps. Donc qu'est-ce qui est plus important ? La résurrection physique ou la résurrection spirituelle ? La résurrection spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la résurrection spirituelle ? La résurrection spirituelle, c'est la confession. Donc il faut que nous réalisions, mes bien chers frères, on a un peu de mal à réaliser ces choses-là, qu'une confession bien faite, qui permet une personne qui entre au confessionnal en état de péché mortel et qui ressort avec une âme toute blanche, c'est un miracle plus grand que la résurrection de Lazare. Pourquoi ? La résurrection de Lazare, c'est une résurrection physique, corporelle. Et on ne réalise pas ces choses-là. Parce qu'on est tellement habitué à se confesser qu'on ne pense pas ce qui se passe dans notre âme. Imaginez quelqu'un qui est en état de péché mortel et qui malheureusement... pas encore eu le temps de se confesser, il meurt dans un accident de voiture en venant se confesser. Il ne peut pas aller au ciel, puisqu'il a le péché mortel, sauf s'il a pu avoir un acte de contrition parfaite avant de mourir. Par contre, une fois qu'il s'est confessé, s'il a fait une bonne confession, et qu'il malheureusement il se tue dans un accident de voiture en rentrant chez lui, après la confession, là il peut aller au ciel. Vous voyez, donc le plus grand des miracles du bon Dieu, c'est le miracle de la confession, certainement. Seulement, c'est un miracle qui ne se voit pas. On est très, très sensible, évidemment, aux miracles qui se voient. Mais on ne réalise pas tous ces miracles qui ne se voient pas. Et le plus grand des miracles, c'est certainement la grâce de la confession. Donc, on peut associer la résurrection physique à la résurrection de la fille de Jaïr. Et on peut associer la confession à la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Et on peut associer à la résurrection de Lazare la grâce des grâces. Qu'est-ce que c'est que la grâce des grâces ? C'est la plus grande grâce qu'on puisse recevoir dans sa vie. Quelle est la plus grande grâce que nous puissions recevoir ? Les pères de l'Église disent tous, la plus grande grâce que nous pouvons recevoir, c'est la grâce de la bonne mort. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire d'être en état de grâce le jour de notre mort. Il n'y a rien de plus grand. C'est la grâce de notre bonne mort, c'est-à-dire qu'on a dans la poche la clé qui ouvre la porte du paradis. Mais il faut penser à toutes ces choses-là et réaliser ce qu'est la confession. Voyez-vous, c'est le Saint curé d'Ars qui, une fois, recevait un protestant qui était venu le voir à Ars. Et il savait qu'il était protestant. Et donc, il le prend par la main comme ça, il dit, « Pauvre protestant, vous n'avez ni la messe, ni la Sainte Vierge, ni la confession. » Alors, eux, ils ont le droit de se décourager. C'est pour ça qu'il y a un tel découragement dans le protestantisme. Il y a un découragement parce que les protestants, si vous voulez, ne croient pas au mystère de la messe. Ils ne croient pas au sacrifice propitiatoire qui enlève les péchés. Donc, pour eux, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient qu'ils ont un sac à dos dans lequel il y a tous leurs péchés. Ils sont là tous. Et que ces péchés, ces pierres très lourdes, un sac à dos de 40 kilos que vous portez, plein de pierres, qu'est-ce que fait le Christ? Il couvre ses péchés avec son sang. On ne les voit plus, mais les cailloux sont toujours dans le sac. Donc vous continuez d'avoir les 40 kilos à porter. Au contraire, pour un catholique, c'est complètement différent. Qu'est-ce qu'on croit, nous? Que si je vais me confesser avec l'accusation, la contrition et la réparation, mes péchés sont complètement effacés et le sac à dos est vide. Et donc, c'est ce qui explique ce découragement très profond qu'il y a chez les protestants. J'ai rencontré ça très souvent chez les catholiques, chez les protestants aux États-Unis. Et on ne se rend pas compte de cette grâce que nous avons. Je vous ai peut-être déjà raconté cette histoire qui m'a bouleversé complètement. Une fois, j'étais en train de célébrer une messe en semaine à Albuquerque, dans ma chapelle d'Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique, aux États-Unis, au sud des États-Unis. Et je vois une personne qui était au fond de la chapelle que je n'avais jamais vue. Après la messe, il reste là. Donc je vais le voir pour voir ce qui se passe. Je lui dis, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Et ce jeune homme me dit, mon père, j'ai grandement besoin de me confesser. Je lui dis, mais pas de problème, je vais au confessionnal, je mets le surplus et l'étole, j'attends, il ne vient pas. Je ressors et je lui redis la même chose, venez, je vais vous aider. Mon père, j'ai grandement besoin de me confesser. Je dis, venez, je retourne au confessionnal, il ne vient pas. Je ressors une troisième fois, il me redit la même chose. Il pleurait, ce pauvre garçon. Et je lui dis, mais ne vous découragez pas, je vais vous aider. Il me dit, mon père, je suis protestant. Ah, problème technique. Je ne peux pas confesser un protestant. Donc je lui ai dit, écoutez, ne vous découragez pas, je vais vous aider, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire, regrettez du fond du cœur vos péchés, et peut-être qu'on peut commencer à vous préparer un petit peu au baptême. Ah mon père, ce n'est pas possible. Puis il est parti. Ça m'a bouleversé. C'est là où on se rend compte, quand on voit des exemples comme ça, la grâce que nous avons, nous, de pouvoir nous confesser. Mais attention à des conséquences, hein. Peut-être pas les oublier, les conséquences. Le jour où ce protestant va mourir, il pourra moi dire, oh bon Dieu, écoutez, moi, je n'ai pas pu me confesser, je n'étais pas catholique. Le jour où vous et moi, on va mourir, ce n'est pas la même chose. Parce que sur notre âme, il y a le caractère du baptême. Alors, vous n'allez pas pouvoir, je ne vais pas pouvoir dire, oh bon Dieu, écoutez, je n'ai pas pu me confesser. Attention, vous êtes catholique, vous avez la grâce de la confession. Donc, il faut réaliser un petit peu, mes bien chers frères, ces choses-là, la grâce que nous avons d'être catholiques. La grâce que nous avons d'avoir conservé la foi, la confession. La foi, la gravité du péché. Regardez ce nombre de personnes qui se disent catholiques aujourd'hui dans le monde moderne, qui ne croient plus au péché. Ils ont péché jusqu'au cou, et puis ils disent, oh, c'est pas grave, Dieu est mort pour nos péchés, et de toute façon tout le monde le fait, alors comme tout le monde le fait, c'est pas si grave que ça. On n'arrive même plus à changer leur esprit. C'est très fréquent chez les jeunes, surtout. Donc il faut remercier le bon Dieu d'avoir compris ce qu'est le péché. Si vous et moi, nous avons compris la gravité du péché, ce n'est pas par nos propres forces. C'est un don que vous et moi, nous avons reçu du bon Dieu. Et qui ne donne pas à tout le monde, pensez à tous ceux qui n'ont jamais reçu cette grâce. Alors on voit très bien dans l'évangile, c'est des petits détails, mais des détails qui sont importants. On voit très bien comment, regardez dans l'évangile, il dit que notre Seigneur Jésus-Christ, qui arrive dans la ville de Naïm avec ses apôtres, il voit cette foule qui arrive, qui suit le cercueil. Qu'est-ce que fait notre Seigneur? Il touche le cercueil. Pourquoi il touche le cercueil? Les pères de l'Église expliquent, le cercueil représente les trois concupiscences. Les trois concupiscences qui nous gardent en quelque sorte comme dans une prison, de même que le corps de ce pauvre homme qui vient de mourir est prisonnier du cercueil. En touchant le cercueil, notre Seigneur Jésus-Christ détruit les liens de la concupiscence. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair et l'orgueil. Et deuxième chose, les pères font aussi remarquer que le cercueil est en bois. Pourquoi? Parce que c'est par le bois de la croix que notre Seigneur Jésus-Christ va sauver nos péchés. Par le bois de la croix que notre Seigneur Jésus-Christ nous aide. Et autre chose qui est aussi très importante, un détail qui est dans l'évangile, qui n'en est pas un en fait. Qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ après avoir ressuscité le fils de la veuve de Naïm? Il le rend à sa mère. Il le rend à sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est qu'au moment où je commets une faute grave, je perds ma mère. Je perds mes deux mères, on en a deux, on en a trois même. Une mère physique ici, celle qui vous a donné la vie, mais vous avez aussi deux autres mères. L'Église, d'une part, et la très sainte Vierge Marie. Et en quelque sorte, au moment où je tombe dans le péché, je reste bien sûr fils de l'Église, je reste fils de la très sainte Vierge Marie, mais il y a quand même une coupure qui s'effectue entre moi et l'Église à cause du péché. Parce que tant que je suis dans le péché, l'Église ne peut plus me donner tout ce qu'elle voudrait me donner. Parce qu'il faut d'abord que je passe par la confession pour retrouver ce contact avec l'Église. De la même façon, la très sainte Vierge Marie est toujours ma mère, bien sûr, même si je suis dans le péché jusqu'au cou. Mais à partir du moment où je suis dans le péché, il y a une certaine rupture qui s'effectue entre moi et ma mère spirituelle, la très sainte Vierge Marie. Donc il faut réaliser ça à chaque fois que je fais une bonne confession, je retrouve mes deux mères. Le bon Dieu, en quelque sorte, me ramène dans le giron de la très sainte Vierge Marie, de sa mère. Le bon Dieu me ramène dans le giron également de l'Église catholique. Alors, quelle est la condition pour pouvoir ressusciter d'entre les morts? La condition, c'est l'humilité, mes bien chers frères. Et c'est l'épître d'aujourd'hui, l'épître aux Galates, qui nous rappelle cette condition absolument essentielle. Qu'est-ce que nous dit saint Paul? Que celui qui est debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Que celui qui est debout ne se considère pas comme capable de rester debout tout seul. Peut pas. Celui qui est debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. La chute, c'est quoi? C'est le péché. Donc tous, vous et moi le premier, même quand nous sommes debout, sans l'aide du bon Dieu, on est capable de tomber immédiatement. Il n'y a pas un péché qu'a fait le voisin que je ne sois pas capable de commettre 10 fois plus vite que lui, sans la grâce du bon Dieu. Donc il faut se maintenir dans l'humilité, mes bien chers frères. Si vous et moi, nous avons pu conserver la foi, ce qui est un véritable miracle par les temps qui courent, ce n'est pas par la force du poignet que nous avons obtenu cette foi. C'est parce que le bon Dieu a eu pitié de nous d'une façon toute spéciale. Pourquoi? Allez poser la question. Posez-lui la question après avoir communié. Pourquoi, mon Dieu, vous m'avez aimé de cette façon? Pourquoi le bon Dieu n'a pas donné cette grâce qu'il nous a donnée à tous les gens qui sont autour de nous? Autour de nous, il y a des millions de personnes qui recevront sans doute, peut-être, hélas, jamais cette grâce. Pourquoi est-ce que vous et moi, on l'a reçue? La seule réponse, elle est dans la miséricorde infinie du bon Dieu qui s'exerce de façon extraordinaire sur certaines personnes. Dieu aime tous les hommes et veut que tous les hommes aillent au ciel, c'est évident. Saint Thomas a une façon magnifique d'expliquer. Il dit, de volonté antécédente, Dieu veut le salut de tous les hommes. De volonté conséquente, dit-il, seuls ceux qui mourront en état de grâce seront sauvés. Dieu voulait le salut de tous les apôtres. Il en a perdu un. Dieu voulait le salut de Judas. Il avait donné à Judas le pouvoir de faire du miracle. Dieu avait choisi lui-même Judas. Il aurait voulu que Judas sauve son âme. Et là, Judas a perdu son âme. Rappelez-vous la phrase terrible de notre Seigneur sur Judas. Il aurait mieux fallu pour cet homme qu'il ne fût point né. Mais rappelons-nous, mes bien chers frères, à quel point nous avons besoin de cette humilité. La première condition pour conserver la foi aujourd'hui, c'est l'humilité. D'ouvrir la porte de notre âme en disant, oh mon Dieu, ayez pitié de moi. Rappelez-vous cette magnifique prière de Saint Philippe Néri qui faisait tous les matins. Oh mon Dieu, je vous l'ai cité souvent cette prière, elle est magnifique. Oh mon Dieu, gardez Philippe entre vos mains, parce que sans votre aide d'ici ce soir, je suis suffisamment stupide pour me faire musulman ou juif. Et il avait raison. Vous voyez, tout ce que je viens de vous dire doit aussi nous aider à comprendre la gravité d'un autre péché. Deux choses qui sont gravissimes. Tuer notre âme ou tuer l'âme du voisin. On peut discuter de savoir qu'est-ce qui est plus grave. Je peux tuer mon âme par le péché, mais je peux hélas aussi tuer l'âme du voisin en introduisant le péché dans son âme par le mauvais exemple que je lui donne, par mon silence, surtout pour les parents. Les parents qui ne font rien pour garder leurs enfants en état de grâce, ce sont ce que l'Écriture sainte appelle des chiens muets. Le chien de garde qui, au lieu d'aboyer quand le loup arrive pour mordre le tout, me prendre les agneaux du troupeau, qui ne dit rien, qui se tait. Ce qui fait que le loup peut rentrer dans la bergerie et croquer les agneaux. Et donc, il faut demander, mes bien chers frères, cette grâce de ne jamais être responsable du péché des autres. Il faut penser à ces choses-là dans nos préparations de confession. Est-ce que je suis responsable à cause de ma faiblesse? Est-ce que je suis responsable du péché chez autrui? Vous connaissez tous sans doute le nom de ce péché par lequel on introduit le péché dans l'âme du voisin. On appelle le péché de scandale. Le péché de scandale, c'est ça. Le péché de scandale, c'est le péché par lequel je suis responsable du péché du voisin. Alors, je peux ressusciter d'entre les morts par une bonne confession. Mais si le voisin est mort, il faut peut-être s'occuper aussi de sa résurrection à lui. Donc, attention, mes bien chers frères. Demandons à la très sainte Vierge Marie, demandons toutes ces grâces dont nous avons besoin. N'oublions pas que la grâce de la confession, puisque la très sainte Vierge Marie est médiatrice de toutes les grâces, la grâce de la confession, elle passe par la très sainte Vierge Marie. Donc, ne nous décourageons jamais, 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 jamais. Même si j'ai commis tous les crimes qui se pourraient être commis, disait sainte Thérèse dans l'enfant Jésus, je viendrai, je me jetterai dans la miséricorde infinie du bon Dieu et tous mes crimes seront, comme dit-elle, comme une goutte d'eau jetée dans un grand brasier. Vous jetez une goutte d'eau dans un grand brasier, la goutte d'eau disparaît, transformée en vapeur immédiatement. C'est la même chose pour nous. Même si vous avez assassiné la moitié de la population de la terre, si je vais me confesser avec une véritable contrition, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Rappelez-vous, Saint Pierre, qui n'avait pas encore bien compris ces choses-là au début. Notre Seigneur Jésus-Christ vient d'expliquer le pouvoir de la confession aux apôtres. Et Saint Pierre demande à notre Seigneur Jésus-Christ, combien de fois je dois pardonner? 7 fois? Et que répond notre Seigneur? Non, Pierre, pas 7 fois, 70 fois 7 fois. C'est-à-dire toujours. À condition qu'on regrette. Malheur à celui qui se confesse sans regretter. À condition que je regrette et à condition que je prenne les moyens pour être sûr de ne pas retomber. Même si je crains de retomber. C'est différent de craindre. Monsieur l'abbé, je suis faible, j'ai peur de retomber. Je vais tout faire pour ne pas retomber. Je prends tous les moyens pour ne pas retomber. Mais j'ai peur de retomber. L'absolution est valide. Au contraire, si quelqu'un me dit, monsieur l'abbé, je sais que je vais retomber. Alors j'arrête, j'abandonne, je n'ai plus d'effort. Là, je ne peux pas donner l'absolution. Et si l'absolution est donnée par le prêtre, l'absolution est invalide. Alors ne nous décourageons jamais, mes bien chers frères. Passons par la très sainte Vierge Marie, notre bonne mère du ciel, et demandons-lui de nous aider à comprendre toutes ces choses. N'oubliez pas que si le bon Dieu a permis que vous veniez ici, que vous commenciez à venir ici de façon régulière, c'est une grâce du bon Dieu, mes bien chers frères. Une grâce du bon Dieu. Pensez encore à tous ces gens qui, autour de nous, n'ont pas la messe. Ils n'ont rien. Certains habitent dans des pays où il n'y a rien du tout, absolument rien. Je vous ai déjà donné l'exemple d'une personne que je connais bien qui habite à Pékin. Ils vont m'écouter sur Internet. Eh bien, il n'y a rien, absolument rien dans tout le pays. Eh bien, de remercions pour Dieu si nous avons quelque chose. Mais n'oubliez pas que plus on a reçu, plus on doit donner. Chacun a une taille d'âme différente. Le bon Dieu exige que cette âme soit pleine de sa grâce le jour de notre mort. Si vous avez une âme qui est grande, dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme un petit verre à liqueur, ce qu'il faut, c'est que ce verre soit rempli. Si votre âme est grande comme un grand pot à bière de 2 litres, il faut aussi que votre âme soit remplie du bon Dieu. Voilà ce que vous demande le bon Dieu. Alors demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie afin de ne jamais, jamais, au grand jamais nous décourager. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.